Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la version homme de femme d'aujourd'hui. Et mon invité, justement, accepte de jouer le jeu de notre rendez-vous, d'aller pleinement dans ce qui fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Bien sûr, les réussites et surtout, 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 les belles remises en question qui ne lui font pas peur. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Ali Alaoui Mdahri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Ali ?
Ça va très bien, merci à vous pour votre invitation.
Alors, quand on parle de vous, est-ce que vous préférez qu'on visualise Ali en tant que professionnel ou en tant que sportif ?
Alors, les deux forcément, puisque c'est deux dimensions de ma vie, de mon existence, qui m'ont façonné d'ailleurs, qui m'ont construit, qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui a commencé en premier ? Qu'est-ce qui a été présent en premier, on va dire ?
Alors ça a été plutôt la dimension professionnelle. Moi je suis rentré après les études au Canada, je suis rentré en 2003 et très vite j'ai plongé en fait dans l'entrepreneuriat avec ma sœur. On a fondé une agence de communication et ça a été pendant presque 10 ans vraiment un investissement acharné dans cette entreprise là et pour développer en fait, pour rentrer dans le monde du travail et développer mes compétences. Et puis faire ma petite place. Et ça a été vraiment beaucoup de sueur et de travail acharné. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 2008-2009, j'ai fait un grand pas personnel qui a été d'arrêter de fumer la cigarette. Et ça a été un déclencheur pour moi. Parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait prendre soin de soi et de sa santé. Et j'ai mis le pied dans la course à pied, si je puis dire. Et ça a été donc en fait là une découverte vers 2009-2010, où j'ai commencé à courir, à m'entraîner, avec mon cousin. Et juste après, on est rentré dans un club qui s'appelle le Club Marocain des Coureurs de Fond, où j'ai commencé à courir, on va dire, de manière plus assidue et de manière un peu plus technique.
Est-ce que ce n'était pas remplacer une addiction par une autre ?
Ça, c'est une très très belle formule. Et en fait, effectivement, d'ailleurs, la course à pied, souvent, on dit que ceux qui courent ont un problème à régler avec eux-mêmes.
Ouais.
Ceux qui courent souvent, les
c'est vrai, c'est ce qu'on dit, oui, absolument.
Alors, c'est vrai. D'ailleurs, en fait, c'est devenu après, avec le temps, une addiction.
Ouais.
Et dont j'ai décroché, d'ailleurs. En 2018, j'ai fait mon dernier semi-marathon à Amsterdam et ça a été et depuis j'ai pas repris régulièrement la course à pied. Ça a été un peu un rejet, mais ça a été par contre c'est une addiction qui reste relativement saine hein, par
oui,
rapport à d'autres addictions
oui c'est vrai, c'est ce qu'on pense, mais c'est une addiction qui peut être néfaste pour les articulations, pour le genou. On pense qu'elle est si elle est pas bien contrôlée comme toutes les addictions et qu'elle prend le dessus, elle peut être néfaste pour la santé, même si c'est se dépenser physiquement, en fait. Et c'est ça.
Oui, tout à fait. Ouais. J'irai même un peu plus loin,
ouais,
en disant que ça peut être, ça peut en fait masquer des soucis qu'on a d'ordre psychologique ou avec nos ou sociaux ou personnels dans la vie de couple, etc. C'est souvent un exutoire, hein, la course à pied pour les coureurs réguliers, c'est souvent une façon de fuir en quelque sorte très vite,
ouais,
des problèmes. Après, bon, ça reste de la voilà, c'est des hypothèses, mais dans la réalité ça reste une activité extrêmement saine pour le corps, à condition tout est dans la modération
absolument
façons.
Absolument,
c'est vrai que dans la préparation des marathons ou des sports, enfin des courses un peu plus extrêmes comme les trails, etc., on peut s'exposer quand on a en fait comme ambition d'aller chercher un chrono ou d'aller chercher de se dépasser forcément plus que d'aller plus loin que nos moyens, on peut se faire mal et ça peut se retourner contre soi.
Alors allez oui, vous l'avez remplacé cette addiction par une autre ?
Oui, bien sûr.
Vous lui avez trouvé la remplaçante ?
Aujourd'hui, non, pas encore. J'ai pas encore. En fait, aujourd'hui, je fais la recherche de l'équilibre.
Oui.
En fait, en ayant justement des activités qui sont diversifiées et dans lesquelles je cherche pas une addiction aujourd'hui.
Mais parfois, elles viennent s'imposer à nous toutes seules, hein, vous savez. On ne les cherche pas
absolument.
Forcément.
Je l'attends.
Oui, vous la sentez. Vous sentez que vous allez vers quoi maintenant?
Écoutez, là, je suis plutôt dans les. En fait, comme je vous disais, je suis plutôt dans l'esprit d'avoir une vie équilibrée et dans laquelle je ne vais pas aller chercher une dimension dans laquelle m'investir à fond. Ça a
absolument.
Été d'ailleurs aussi le cas pour le travail. Le travail aussi est une addiction. Hein.
Tout à fait.
C'est une forme d'addiction quand on surinvestit beaucoup. Et en fait, tout, encore une fois, est dans la mesure, en fait. Faire du sport, c'est très bon pour la santé, c'est vraiment recommandé, c'est excellent pour régler tout un tas de choses. Après, tout est dans la modération, dans le temps qu'on y consacre, dans l'effort qu'on y met. Pareil pour le travail, pareil pour la vie sociale, pareil pour le temps qu'on prend pour soi, etc. Donc, je suis en fait en train de chercher cet équilibre-là, et c'est vraiment pas facile.
Alors,
y compris dans l'alimentation, dans le sommeil, etc.
Alors, on dit que les femmes, en général, cherchent cet équilibre autour de la quarantaine, avec la crise de la quarantaine, et les hommes autour de la cinquantaine. Vous vous situez où exactement? Du côté féminin ou masculin?
Bah, j'ai 44 ans, donc je suis un peu au milieu.
Ouais.
donc, je suis pas encore à la cinquantaine, peut-être que c'est un peu précoce chez moi cette recherche d'équilibre, mais bon, je pense qu'il y a une grande crise à la quarantaine et qui peut se prolonger jusqu'à la cinquantaine. C'est les effets en fait peuvent aller jusqu'à la cinquantaine, mais en général vers là, on dit qu'il y a une crise de la quarantaine dans laquelle on remet tout en question, etc. Et je pense que c'est un peu.
Vous l'avez vécu, vous? Vous pensez l'avoir vécu?
Oui, je l'ai vécu, oui. Ouais. Je l'ai vécu en 2018. Je pense que j'avais 39.
Vous vous en êtes rendu compte que c'était une crise de la quarantaine?
Assez rapide, peut-être pas immédiatement, mais oui, au bout d'un an à peu près, j'ai commencé à me dire, bon, là, on est dans quelque chose de sérieux, et parce que je remettais beaucoup les choses en question, mon mode de vie, ma façon d'être, mon identité même, et je pense que c'est sain d'ailleurs, c'est très sain, parce que quand on s'oublie, et quand on est, c'est ce qui m'est arrivé à d'autres périodes de ma vie, quand on s'oublie trop dans sa vie, qu'on fonctionne avec les activités qu'on a, les habitudes qu'on a, les choses comme ça, un jour ou l'autre, on est bousculé par un événement qui vient nous prendre ou par ou tout simplement par un bouleversement intérieur. Et là, on se pose des questions sur mais pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça ou pourquoi je suis comme ci, etc. Et là, il faut être solide, il faut s'accrocher parce que ça peut vraiment perturber l'existence et remettre en cause beaucoup de choses dans l'existence.
Ça remet en cause l'existence personnelle et puis ça déteint aussi sur l'entourage. Vous travaillez avec votre sœur, vous avez une famille, vous avez des amis, enfin, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Est-ce qu'on protège ses proches de sa crise existentielle? Est-ce qu'on est capable, à votre avis, de protéger ses proches de soi, de sa propre remise en question?
Alors là, vous avez des questions qui sont très profondes. Je ne m'attendais pas du tout à ça dans cette interview-là, mais c'est vrai que ça va creuser. Sincèrement, je ne pense pas. D'ailleurs,
moi, vous savez, on a pratiquement le même âge.
Des répercussions.
On a pratiquement le même âge, ok? Et donc, en fait, les questions existentielles, je pense qu'on est nombreux à se les poser. C'est normal, comme vous dites, c'est l'âge, c'est plus ou moins l'âge autour, passé les 35 ans... autour duquel un remuement intérieur... et puis on ne vit pas en autarcie, on vit en communauté, on vit avec ses collègues, on vit avec sa famille. Pour moi, je vis avec mon mari et mes enfants. Et donc voilà, on n'est pas seul. Et quand on pense que sa remise en question est purement personnelle, pour ma part, je ne pense pas.
C'est vrai. Vous avez raison, justement. Je pense pas non plus. Ça a eu de l'impact. Je peux vous le dire. Ça a eu un impact direct sur mes relations avec mon épouse, avec ma famille, avec mes amis, etc. Ça a beaucoup d'impact. Je dirais presque heureusement que ça a de l'impact, parce que de toutes les façons, quand on évolue, si on garde cette évolution, si on s'empêche de l'exprimer, en fait, c'est soi-même qu'on frustre. Et je pense pas que ça soit sain non plus.
Absolument.
Donc, il faut ça. Après, tout est dans la manière dont on présente les choses ou dont on interagit avec autrui. On explique. Il faut beaucoup expliquer. quand on vit ces crises-là, ces questionnements-là, il faut beaucoup expliquer, etc. Et c'est là d'ailleurs où on voit les gens qui sont plutôt réceptifs, ceux qui le sont moins, ceux qui sont plus sur la surface qu'en profondeur. Donc ça nous permet aussi de voir avec qui est-ce qu'on peut approfondir des relations ou avec qui on peut rester sur des relations qui sont plus superficielles. Et voilà.
Mais oui, et c'est là aussi, peut-être, qu'on se rend compte qu'on est avec la vraie partenaire, le vrai partenaire de vie.
Exactement.
Dans le partenariat, en fait. Se soutenir, s'accompagner, et c'est ça, en fait, ce partenariat de vie, ce conjoint, cette épouse. Ça me rappelle une belle conversation, d'ailleurs, ça peut vous intéresser. Si vous avez dépassé cette étape, tant mieux. Sinon, eh bien, vous pouvez... Il y a un épisode que j'avais réalisé avec Nabil Barada, qui était dans la communication, le marketing, etc.
Oui, bien sûr.
Vous le connaissez. Ouais. Et puis, un jour, il s'est lancé dans le développement personnel. Et donc, pareil, installé dans la vie, la quarantaine passée. Pour lui, c'était vraiment la quarantaine passée, les enfants qui grandissaient, etc. Et voilà, ce besoin de changer de vie, ce besoin de se redécouvrir, de découvrir d'autres choses, d'être nourri de l'intérieur. Et sa femme était, il le raconte dans le podcast, sa femme était surprise par sa femme, ses enfants, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Et je lui posais cette question, est-ce que si vous n'aviez pas été soutenu à un moment ou à un autre par votre épouse, est-ce que vous serez parti? Il m'a dit oui. Clairement, je serais partie parce que j'en avais besoin. Mais elle a eu l'intelligence de me comprendre. Et aujourd'hui, eh bien, elle aussi, elle a entamé son changement de carrière. Elle a été emportée, elle aussi, dans le changement positif de son mari, de vie. Mais voilà, il m'a dit clairement, oui, en effet, j'aurais pu partir. Ça aurait pu être la fin entre nous.
C'est clair. Mais en fait, il y a une chose aussi qui est vraiment très importante dans cette logique-là. C'est qu'on croit se connaître.
Oui, absolument.
On croit se connaître. Et en fait, on travaille beaucoup avec des certitudes, des postulats sur soi-même et des idées reçues sur soi-même. Et quand on évolue et qu'on avance réellement et qu'on a le courage de se confronter à soi-même, on peut découvrir une version de soi qui n'est pas forcément plaisante ou tout simplement différente et inconnue de par rapport à ce qu'on savait de nous. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que c'est difficile de se l'expliquer, de se comprendre soi-même. Alors en plus... S'il faut le comprendre,
l'expliquer à quelqu'un d'autre.
À quelqu'un d'autre. Là, c'est là où, comme vous avez dit, il faut que la personne soit à l'écoute, soit prête à recevoir, etc. Ça, c'est vraiment très, comment dire, très important d'avoir cette humilité-là, de se dire, mais moi-même, je suis encore en train de me connaître et je suis en train de découvrir des choses de moi que je n'imaginais même pas. Et ce recul en fait sur soi aide à entretenir, préserver les relations avec l'entourage, la famille, etc. Et puis un autre aspect pour moi en tout cas qui joue un rôle déterminant, c'est ma foi. Et je distingue bien d'ailleurs religion et foi. Parce que dans les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, comme tout le monde, hein, on a tous vécu des épreuves, la foi, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qu'on ressent puissamment à l'intérieur de soi, et c'est un acte d'engagement vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la création, etc. Et donc, par ailleurs et par la suite, la religion est l'extension, l'application, la mise en œuvre qui crée un cercle vertueux, si on veut. Quand on dit la religion, c'est la pratique de la religion. Mais c'est oui, je pense que dans ces perturbations que j'ai vécues dans ma vie, avoir ce pilier-là, ça a été pour moi d'un grand secours pour pouvoir faire face aux événements de la vie et pouvoir accepter aussi quelque chose qui, peut-être à notre époque, commence à être perdu de vue. Mais une chose fondamentale, c'est qu'on n'a absolument pas le contrôle. On n'a vraiment pas le contrôle. On est soumis vraiment à beaucoup d'influences, beaucoup d'aléas et de situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qu'on ne choisit pas, qu'on ne veut pas. Alors, il y a une illusion du contrôle parce qu'on est capable de planifier, de mettre en œuvre des actions, etc. Mais c'est sans considérer que tout ça peut tomber à l'eau par un petit événement qui vient tout chambouler.
Mais alors, un professionnel de la communication comme vous, qui réalise cette fragilité, en fait, et cette vulnérabilité en soi, c'est une très grande preuve d'humilité, surtout que vous, par exemple, vous apparaissez sur les plateaux, vous êtes interviewé, etc., pour votre expertise professionnelle. Est-ce que... Comment on fait pour gérer ces deux facettes, celle de l'incertitude et celle de la compétence ?
Celle de l'incertitude et de la compétence. Vous l'avez dit. Déjà, il faut vraiment rester très 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 humble et puis se dire qu'on sait pas tout et que justement l'idée c'est pas de pérorer comme un expert qui sait tout, etc. C'est pas du tout l'idée. On a un champ de vision qui est somme toute relativement limité, même si on a beaucoup de compétences ou d'expérience, etc. Donc on peut parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on sait, mais notre champ d'action est donc notre champ de vision plutôt est assez limité. Il faut toujours garder cette petite place là. Après, je pense que la clé elle est dans la transparence. Quand on sait, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc cette transparence-là, c'est ce qui est recommandé aux entreprises quand elles ont à communiquer sur des sujets difficiles. C'est pas de tout dire, mais c'est de dire de manière transparente qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Donc il faut savoir faire la part des choses. Donc après, bon, c'est une dimension, comment dire. La communication, c'est l'expression d'idées et de messages, etc. Et donc, si le message consiste à dire qu'on navigue dans le flou et qu'on navigue à vue de nez parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, à partir du moment où on l'exprime correctement, on est dans un acte de communication positif.
Alors, est-ce que depuis cette remise en question, cette prise de conscience que finalement... En fait, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a bien sûr la puberté, l'adolescence, etc. Ensuite, les études supérieures. Après, on est comme en pilotage automatique. On finit ses études, on trouve son job ou là, on monte son entreprise. On bosse. Autour de la trentaine passée, allez, on fonde la famille, etc. Les enfants, ça continue comme ça. Et hop, à un moment, quand tout se stabilise et qu'on pense qu'on arrive vraiment, qu'on a... Ça a failli, on a tout réglé, on va pouvoir avoir ce long fleuve tranquille de la vie, eh bien là, ça se remue à l'intérieur et il y a cette remise en question, etc., dont vous parliez. Et on se rend compte que finalement, eh bien non, je ne me connais pas assez, je ne fais pas forcément ce que j'aime. Ça, je rapporte ce que les gens m'ont souvent raconté dans ce rendez-vous. J'ai besoin de changer de vie, j'ai besoin de faire ce qui m'anime, j'ai besoin de vivre mon expérience de la vie et non pas celle de la famille, de la société, des parents, etc. Et une fois qu'on a réalisé tout ça, pour vous, est-ce que vous continuez à travailler de la même manière ? Est-ce que vous abordez vos équipes même manière.
Alors justement, d'ailleurs, on va clarifier un point. En 2018, j'ai commencé en fait, je sortais de la maison pour aller au travail et presque instinctivement, mon volant se braquait et j'allais au café. Et je me posais, je prenais un café, mais j'étais en mode totalement débranché. Je savais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais il y avait un rejet clair et net d'aller au travail directement le matin. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à prolonger, chaque jour, à prolonger en fait. C'était une heure, puis c'est devenu une heure et demie, puis j'ai commencé en fait à écrire en écriture automatique. Enfin, je tenais un journal, ça fait longtemps que je tiens un journal, mais je reprenais mon journal en écriture automatique. Et beaucoup de choses sortaient. Et après, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais travailler ici, puisque bon, j'y suis. Et j'ai commencé à travailler pratiquement toute la journée, et ça a duré pendant un certain temps. J'avais à l'époque toujours l'agence de communication, et en fait, petit à petit, j'ai commencé à m'orienter vers du conseil et vers de la formation. Je suis allé vers du conseil en communication interne, culture d'entreprise, etc., et de la formation en communication interpersonnelle, en soft skills. J'ai fait une certification en intelligence émotionnelle qui a été pour moi une claque, la découverte de l'intelligence émotionnelle. C'était une vraie claque parce que, en fait, justement, les émotions contrôlent nos vies quand on n'y prête pas attention, nos réactions émotionnelles. Et donc, en fait, plus on apprend à les connaître, à les décoder, à savoir qu'est-ce qui les déclenche, etc., mieux on se connaît et mieux on gère nos, les différentes situations auxquelles on est confronté. Et bref, en fait, c'est de 2018 à peu près à 2022, ça a été cette année, c'est des années où j'ai commencé à travailler différemment. C'est-à-dire, j'avais un DGA au sein de l'agence qui gérait super bien les opérations et donc j'avais très peu besoin d'être présent. Et j'étais présent pour les moments importants avec les clients, etc., et au sein de l'agence. Et puis, moi, je faisais une mission par ailleurs de consulting et de formation. Et en fait, j'ai pris goût en fait, à ce mode de vie où on a des interventions X jours de formation par mois et on s'organise en fonction de ça. Et donc, c'est vrai que c'est très prenant. Mais moi, je commence toujours mes journées de formation ou d'animation d'atelier. Je termine plus en énergie que je n'ai commencé. La journée, je peux commencer avec une certaine énergie et à la fin de la journée, je suis encore plus énergisé. C'est là où je me suis rendu compte, mais ça, c'est bon pour moi.
Ouais.
C'est bon pour moi. Je peux passer une journée à me donner, mais en fait, je reçois plus. Je gagne plus. Et donc là, j'ai compris, ça y est, c'est ce que je veux faire. Et d'ailleurs, l'agence, on a eu des difficultés. On l'a fermée en 2022 parce qu'on avait des difficultés. Et puis, on se disait, est-ce qu'on repart ça nous est arrivé plusieurs fois. Est-ce qu'on repart à zéro? Est-ce qu'on réduit les équipes? Est-ce qu'on réduit la voilure, etc. pour repartir? Et c'était plus possible pour nous parce qu'on n'était plus engagés autant. Et donc je suis principalement dans le conseil et la formation. Et pour répondre à votre question, c'est clair que c'est très difficile pour moi d'imaginer dans le mode salariat du matin au soir. Après, il n'empêche que quand on a de la passion, quand on aime ce qu'on fait, c'est totalement faisable de travailler beaucoup. Mais c'est juste qu'il y a une part qu'il faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas des robots. Et que donc, si on a travaillé de façon acharnée pendant 10 jours sur un projet, c'est normal de récupérer après un jour ou deux. Et ça, c'est les entreprises vont vous dire, ah oui, mais il faut prendre votre congé.
Et c'est ça. Je vous avais anticipé ma question, exactement.
Ouais, c'est donc,
quand on est dans une entreprise...
Je reste convaincu que le monde du travail aujourd'hui, il est encore construit sur la base d'un modèle qui est dépassé. C'est le modèle industriel, c'est-à-dire voilà, s'il y a des horaires à faire, il y a une présence obligatoire à faire, il y a un certain rendement à donner, etc. Mais l'être humain, il n'est pas forcément soumis aux mêmes lois. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de constance, etc. Mais il y a une dimension humaine qui fait que un salarié, par exemple, qui a performé pendant 4 ans d'affilée, et puis il a vécu un drame personnel très très fort sur la 5e année, et ses performances ont chuté. Qu'est-ce que va lui dire l'entreprise? Ah, mais tu n'as pas été assez performant. Oui, mais ça fait 4 ans que lui, il a surperformé, et là, il a vécu un drame personnel. Ah oui, mais nous, on ne peut pas tenir compte des situations personnelles, c'est à chacun de gérer. Bon, il y a des entreprises où il y a une humanité encore parce qu'elles sont gérées par des patrons qui peuvent être humains et qui peuvent comprendre ces choses-là. Mais quand bien même, le monde tel qu'il est, surtout aujourd'hui avec cette hyper concurrence qu'il y a, c'est très très difficile d'admettre que les êtres humains parfois peuvent avoir des défaillances ou ne pas être présents.
Vous étiez un patron humain à l'époque ?
J'ai fait de mon mieux. C'est une éducation de soi. Et je pense que cette éducation de soi, elle dépasse largement le simple spectre du management ou du leadership. Vraiment, c'est soi-même, comment est-ce qu'on interagit avec les autres, comment on les apprécie, en fait. Positivement et négativement, comment est-ce qu'on apprécie leur contribution à l'entreprise, comment on apprécie leur humanité aussi,
etc. Ça c'est bien dit, c'est une éducation de soi avant tout.
Oui, c'est clair.
Ouais.
C'est clair. Et ça c'est un travail aussi sur le long cours.
Allez, Alaoui Mdrali, merci infiniment d'avoir été avec moi dans la version homme de Femmes d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce bel échange.
Merci à vous, c'était très intéressant et merci pour vos questions très pertinentes.
Merci Ali. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média 1 et bien sûr en avant-première sur Média 1 Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média 1 Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.